grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Apparus au milieu des années 90 et 2000, les sites puis les applis de rencontres ont-ils vraiment tué l'amour? Peut-on vraiment trouver sa moitié grâce aux outils numériques et aux algorithmes? Ou s'agit-il plutôt d'un moyen rationnel d'obtenir des relations sexuelles plus ou moins éphémères? Ces nouvelles manières de se séduire provoquent de nombreuses critiques. Pour beaucoup, c'est la victoire d'un capitalisme des sentiments amoureux qui transforme l'autre en marchandise jetable dans un marché dérégulé de l'amour, où les normes sociales et la morale seraient foulées aux pieds. La grande nouveauté des cupidons numériques, c'est peut-être que la rencontre s'est désormais privatisée, bien à l'abri des regards. Cette rencontre amoureuse n'est plus l'apanage des lieux de sociabilité habituels, comme le travail ou le cercle d'amis. Mais comment fonctionnent les règles de la séduction numérique? Quelles sont les bonnes et les mauvaises manières pour mettre en scène son profil et ses photos? Pourquoi est-il essentiel de soigner les premiers mots échangés, son orthographe, d'utiliser un humour de bon aloi, de distiller quelques références culturelles? Et puis nous évoquerons le moment crucial de la rencontre physique entre joie et déception. Pour nous éclairer ce matin, deux sociologues, Marie Bergström et Pascal Lardelier, dites-nous si vous avez trouvé votre moitié sur ces applis et sites de rencontres, ou est-ce plutôt un moyen de nouer des relations amicales et ou sexuelles. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Contactez-nous également sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse ou sur l'appli France Inter. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses ce
matin. Oui, alors il paraît que vous avez convoqué Emmanuel Lévinas, rien que ça, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne.
Oui, je ne suis pas coach en séduction, mais simplement je crois qu'en philosophe, on peut s'interroger sur la question de savoir qu'est-ce qu'une rencontre réussie.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Attends, je peux pas, désolé, j'ai un petit ami.
Quoi? Alors pourquoi t'es sur cette appli?
J'aime bien l'utiliser pour me faire des amis.
Non, c'est pas fait pour ça, c'est une appli de rencontre, ça s'appelle l'amour au premier regard.
Et peut-être qu'il devrait en créer une pour se faire des amis.
J'ai du mal à me sentir concerné par ce genre de problème.
Bon, sinon tu veux qu'on se voit la semaine prochaine? En ami? Je te présenterai Rod.
C'est qui ça?
C'est mon petit ami.
Oh. D'accord. Comment t'as rencontré Rod?
Sur l'appli.
Extrait de l'excellente série Master of None d'Aziz Ansari sur Netflix. Bonjour Marie Bergström.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et vous venez de publier un livre très solide, passionnant, aux éditions La Découverte, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique. Bonjour Pascal Lardelier.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information à l'Université de Bourgogne, et vous avez publié il y a quelques années Les réseaux du cœur, et vous êtes l'un des précurseurs sur ce sujet. Pascal Lardelier. Alors Marie Bergström, dans les années 70-80, il était possible de nouer des relations amoureuses ou sexuelles via des agences de rencontres matrimoniales, des petites annonces, mais c'était souvent mal vu, honteux, et c'est jamais vraiment rentré dans les mœurs.
Non, tout à fait. Souvent, quand on parle des applications et des sites contemporains, on en parle comme quelque chose de radicalement nouveau. Mais c'est vraiment oublier que ces services, c'est certes des enfants du web, mais ils ont aussi une histoire longue qui remonte, en fait, plus que au-delà des années 80. On peut commencer au 19e siècle avec les premières annonces matrimoniales, les premières agences en France. Donc, qui vont se diffuser. Le chasseur français, beaucoup en France le connaissent. Il va connaître un essor dans la période d'entre-deux-guerres. Donc voilà, c'est vraiment une forme de rencontre médiatisée qui a une longue histoire. Et effectivement, avec un renouveau dans les années 80, avec le Minitel en France notamment, les messageries conviviales, mais comme vous dites, c'est des services qui ne sont jamais entrés dans les mœurs.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, ces services, et c'est d'ailleurs quelque chose qui partage avec les sites et les applications contemporaines, ce sont des services qui entrent en contradiction avec les imaginaires amoureux. C'est-à-dire, il y a une forte valorisation encore aujourd'hui de la rencontre fortuite, de l'amour aveugle, désintéressé, inconditionnel. Donc, beaucoup d'images autour de l'amour. Et en réalité, ces services mettent un peu au défi ces imaginaires. Donc, moi, je dis qu'ils bousculent les idées de l'amour bien plus que la pratique, parce que, effectivement, c'est plutôt le côté de mythe de la rencontre qu'on va avoir des contradictions.
Pascal Lardelier.
Oui, c'est vrai que les couples ont besoin de s'inscrire encore dans un espèce de cadre normatif qui est l'idéologie romantique. Hein, et on voit combien le cinéma, les séries, l'art, le théâtre, effectivement, produisent et reproduisent cette idéologie romantique. Et c'est vrai que beaucoup de couples, eh bien, éprouvent le besoin de réinventer l'histoire, le début de l'histoire. Et quand on se rencontre sur Internet, ça met un peu en tension, finalement, parce que ça met en contradiction la sentimentalité, l'amour, le romantisme, et puis la rationalité inhérente à ces sites. Et c'est vrai que beaucoup de couples ont besoin d'un espèce de storytelling enchanteur. Donc on réinvente les débuts. J'avais d'ailleurs fait dans une radio concurrente, chez une de vos confrères, une émission là-dessus il y a quelques mois. Pendant une heure, on avait parlé de gens qui téléphonaient, qui disaient comment ils avaient réinventé la rencontre pour qu'elle soit plus conforme justement à ce cadre romantique.
Désormais, on a de moins en moins de complexe à avouer que l'on s'est rencontré sur Tinder, Adopte un mec, Mythique ou encore Happn.
Oui, c'est-à-dire que ce que les sites et les applications vont changer et au fur et à mesure, c'est vraiment une forme de banalisation de recours à des services spécialisés. Donc, quand les sites sont apparus au milieu des années 2000, il y a encore ce tabou qui est très fort et effectivement beaucoup de couples qui se rencontrent via ces services qui ne disent pas qu'ils se sont rencontrés par ces services. Ils disent plutôt qu'ils se sont rencontrés dans le lieu qui était en fait le lieu où ils se sont vus la première fois. Donc, ça faisait beaucoup de couples formés dans les bars, et de façon étonnante, ou dans des cafés.
Et Émilie nous dit sur notre page Facebook, j'ai eu la chance de rencontrer ma moitié, avec laquelle je partage ma vie depuis presque 10 ans, sur le célèbre site de rencontre qui commence par un M. Le plus dur est de raconter à nos amis et à la famille comment nous nous sommes rencontrés, car au bout de 10 ans, seuls quelques amis proches connaissent la vérité. Nous avons dû inventer une histoire de toutes pièces, car cette rencontre est la nôtre et elle fait partie de notre intimité.
Oui, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est un récit qui, je ne sais pas à quelle année ils se sont rencontrés, mais
c'est une dizaine d'années.
Oui, c'est ça. Donc, je pense que vraiment, c'est le début des sites. Il y a toujours le tabou qui est là. C'est encore vrai aujourd'hui. On a posé la question dans une enquête à l'INED en 2013 sur les personnes qui avaient rencontré leur conjoint par ce biais. Est-ce qu'ils disaient facilement à leur entourage qu'ils ont utilisé déjà ce genre de service? Et en fait, une majorité de personnes disaient que non.
Pascal Lardelier, dans votre livre Les réseaux du cœur, vous demandez pourquoi des millions de personnes préfèrent se rencontrer via une médiation technologique plutôt que dans la vraie vie. Comment expliquer ce besoin de se protéger derrière son écran plutôt que de se frotter à la vraie vie ?
Je crois qu'on vit quand même une crise de la rencontre, une crise de la rencontre dans la vraie vie. Beaucoup de gens que j'avais enquêtés dans le cadre de mes ouvrages expliquaient qu'ils ne draguaient, enfin qu'ils ne rencontraient à des fins sentimentales ou sexuelles que sur Internet et que dans la vraie vie, c'était même pas la peine d'y penser. Et puis les choses se sont encore accélérées depuis quelques années avec la judiciarisation de la séduction. On a vu tous les mouvements depuis 2-3 ans, MeToo, Balance ton porc, etc. Et c'est vrai que c'est devenu presque justiciable de draguer à la française. Je mets des guillemets, il y a eu des tas d'émissions, de bouquins là-dessus. Et donc, on préfère finalement cette hygiaphone relationnelle que représente l'écran des applis et des sites de rencontres.
Marie Berchaume, vous êtes d'accord avec ça?
Pas tout à fait. Moi, j'ai une explication différente de comment expliquer le succès de ces services. Et vraiment, je tiens à les inscrire dans une histoire un peu plus longue des évolutions de la sexualité de couple. Et tout d'abord, en fait, cette diversification des parcours affectifs qu'on constate au cours des dernières décennies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on se met en couple plus tard, à des âges plus tardifs, ce qui veut dire qu'on a une jeunesse allongée. C'est une jeunesse où les jeunes vivent plusieurs histoires, ils expérimentent et en fait les applications et les sites sont finalement tributaire de cette jeunesse allongée parce qu'ils permettent d'expérimenter justement et notamment à l'abri des regards. Et ensuite, on a un autre phénomène qui est l'augmentation des séparations et la rupture est devenue une expérience courante et récurrente, mais on ne constate pas vraiment d'affaiblissement de la norme conjugale parce que la plupart des gens qui se séparent, ils veulent se remettre en couple avec la difficulté que lorsqu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens dans l'entourage sont en couple et il y a une sociabilité qui est beaucoup plus organisée autour de petits dîners. Donc vraiment, pour moi, j'inscris le succès de ce site, non pas par une crise de la rencontre, mais plutôt par un changement des parcours affectifs.
Pascal Lardelier.
Néanmoins, c'est vrai qu'on se justifie toujours d'être célibataire, on se justifie jamais d'être en couple. Donc le couple reste la norme, on en sort pour mieux y revenir. Internet produit des couples, mais en défait aussi. Et puis finalement, on aime toujours comme une époque nous autorise ou nous permet d'aimer. Et une époque, c'est un ensemble de valeurs et ce sont des techniques ou des technologies.
Marie Bergström, sait-on de façon fiable combien de personnes utilisent les applis et les sites de rencontres?
Oui, on a une enquête, on a plusieurs enquêtes.
De l'INED notamment.
De l'INED notamment. Donc la dernière a été conduite en 2013-2014. Donc
enquête nationale. Hein.
Voilà, enquête nationale, donc avec un échantillon représentatif de la population française. Et donc on estime qu'en 2013, les personnes entre 18 et 65 ans, c'est à peu près 18% qui ont déjà utilisé un site. Donc ça, c'est toute la population. Si on regarde plus précisément les personnes célibataires et séparées, on est plutôt sur un tiers des personnes qui disaient « oui, j'ai déjà utilisé ce genre de service ». Donc c'était en 2013 et voilà, on peut faire l'hypothèse forte que c'est encore plus important aujourd'hui.
Et quelles sont les générations qui utilisent le plus ces outils numériques ?
Alors ce sont les jeunes et c'est une question de génération comme vous dites, mais c'est aussi une question d'âge. C'est une question de génération parce que c'est des personnes nées dans les années 90 qui ont grandi avec les pratiques numériques et qui du coup ont un usage très extensif du réseau. Applications de rencontres, mais aussi d'autres formes d'applications. Mais c'est surtout aussi une question d'âge, parce que chez les jeunes qu'on a plus de célibataires, et donc des personnes qui sont ouvertes à faire une rencontre.
Et on y retrouve autant d'hommes que de femmes ?
Alors ça, c'est une question très très débattue. Et il y a cette présupposée qui est effectivement fausse, qu'il y aurait beaucoup plus d'hommes sur les sites et les applications. En fait, ça dépend des âges. Chez les jeunes, il y a plus d'hommes parce que chez les jeunes, les hommes restent célibataires plus longtemps. Chez les personnes plus âgées, après 50 ans, il y a plus de femmes parce qu'à cet âge-là, il y a plus de femmes séparées.
Marie Bergström, pourquoi avoir concentré votre enquête sur les hétérosexuels et quelles sont les différences avec les rencontres homosexuelles sur ces sites et ces applis ?
Alors j'ai voulu tout d'abord dans ce livre quelque part casser le récit unique parce que souvent quand on parle de sites et des applications on parle comme un phénomène d'ensemble donc ça devient un récit très généralisateur et la conséquence première c'est que on écrase un peu les expériences minoritaires donc c'est tout d'abord les expériences gays et lesbiennes donc moi j'ai voulu me concentrer de dire que je parle des hétérosexuels pour ne pas invisibiliser d'autres usages parce qu'effectivement c'est des utilisations très différentes.
Quelle est la différence ?
Alors la première différence capitale, c'est que les gays et les lesbiennes, ils ont une grande familiarité depuis longtemps avec les services de rencontre. Ils étaient des grands utilisateurs de services téléphoniques, aussi de Minitel, des petites annonces. Et donc, quelque part, ces nouveaux applications et sites, ça remplace ces anciens dispositifs. Ça n'en invente pas. Alors que pour la population hétérosexuelle, justement, le recours à des services spécialisés, ça a toujours été une pratique minoritaire. Donc, c'est vraiment dans cette population-là qu'on a quelque chose de vraiment nouveau et, à mon avis, une rupture avec l'organisation des rencontres.
Pascal nous dit, il y a plus de 8 ans, j'étais divorcé. J'ai profité d'un site pour rencontrer des hommes. Le but étant de nouer une relation durable. J'ai fait beaucoup de rencontres avec des débuts d'histoire amoureuse ou juste pour profiter de l'instant présent. C'est grâce à ce site que j'ai rencontré Stéphane. Je n'aurais jamais croisé son chemin sans un site de rencontre. Aujourd'hui, nous vivons ensemble avec mes 3 enfants, ses 2 enfants. Et nous avons eu un petit bonhomme qui a 1 an et demi. Allez, dites-nous si vous avez rencontré l'amour sur une appli ou un site de rencontre. Racontez-nous vos joies et déconvenu. Le décalage entre le numérique et la réalité, standard ouvert au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Claire Destacan, Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Nicolas Beauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girl. Too long. Portiched d'interpréter Glory Box.
Attends, je rêve ou t'es sur l'appli?
Grand bien vous fasse.
C'est carrément foireux, ça. C'est moi ton rencard.
C'est juste qu'il est que 10h et je pourrais peut-être rencontrer un autre mec après.
France Inter.
Il est 10h23 et on se demande ce matin si on peut vraiment trouver l'amour sur les applis et les sites de rencontres. C'est la question que je vous pose au standard 01 45 24 7000. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous?
Du Pas-de-Calais, la région d'Arras.
Alors, vous vous êtes inscrite sur un célèbre site, commençons par un M, après voilà. 2 ans de célibat, c'est ça?
Comment?
Après 2 ans de célibat, vous êtes inscrite sur un site.
Oui, en fait, bah, j'avais quitté mon ex-époux et puis bon, ça posait pas de soucis. Mais par contre, j'ai eu une grosse envie de liberté, une grosse bouffée d'air et je vivais très bien seule, en fait. Ça me posait pas de soucis. Par contre, je sais pas, j'ai eu un déclic un jour, je me suis dit que vivre seul, c'était pas un but en soi, c'était pas même normal. Et dans un premier temps, moi, je pensais à une rencontre naturelle, genre rencontrer quelqu'un à la piscine ou même dans la rue. Mais non, en fait, c'est plus très possible maintenant.
Pourquoi c'est plus très possible? Pourquoi c'est plus très possible, Véronique?
Je pense que les gens ne se voient plus, vraiment. On marche dans la rue, on se regarde pas beaucoup.
Mais est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur ce site, Véronique?
J'ai fait quelques rencontres. J'étais surprise parce qu'en fait, j'ai fait quelques rencontres. On se voyait c'était une rencontre au restaurant et on échangeait comme ça. Mais c'était à chaque fois des rencontres. J'ai jamais été déçue parce que c'était des rencontres intéressantes. On a échangé nos vies comme ça, mais c'était des gens qui m'ont apporté des choses, des idées, c'était bien.
Merci beaucoup Véronique d'être intervenue ce matin. Bonjour Michael.
Oui, bonjour.
Vous appelez dans Danger. Alors vous avez rencontré l'amour sur un site ou sur une appli de rencontre?
Oui. Donc, moi, j'ai voulu intervenir parce que on dit souvent que les sites de rencontres ou les applis aujourd'hui, ça laisse pas beaucoup de place au hasard. Alors nous, pour l'anecdote qui est un peu rigolote, c'est que moi, j'ai rencontré ma femme, en fait, en voulant cliquer sur page suivante. J'ai cliqué sur un petit bouton qui, à l'époque, en fait, sur le site en question, on va pas le citer, on était flashé pour elle. Et le profil de ma femme était pratiquement non rempli, il y avait même pas de photo, et elle en plaisantait avec ses copines, elle passait toute la journée, le jour suivant, à dire « il a flashé pour moi », elle en rigolait, et finalement on s'est rencontrés, parce que moi je recevais des avis du qui a visité ma page. Et aujourd'hui on est mariés donc depuis 2 ans, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on a deux petits garçons, donc c'était aussi, moi à l'époque les sites de rencontres je les fréquentais un petit peu en sérendipité, c'est-à-dire que j'avais tendance à aller aussi sur des profils vers lesquels je ne serais pas allé naturellement. Voilà, et donc hasard peut bien faire les choses.
Et qu'est-ce que vous dites à vos amis, à votre famille? Vous dites que vous êtes rencontrés sur un site?
Ah oui, depuis le début, on a toujours assumé ça. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune honte à ça. C'est le monde moderne qui fait qu'on a plutôt plus de chances de rencontrer des gens vers qui on ne serait pas allé naturellement. Moi, j'étais originaire donc de Loire-Atlantique. Ma femme, elle était originaire de l'Île-de-France. Et elle faisait ses études à Nantes. Et on s'est rencontrés comme ça. Et je pense qu'on ne se serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ces sites de rencontres.
Dans votre sens, Michael, Hélène nous dit « Je voulais mettre en garde contre les sites qui proposent de rencontrer quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts que vous. Si j'avais suivi ce genre de préconisation à l'époque, je n'aurais sans doute jamais engagé le contact avec mon mari, car en apparence, nous étions très différents avec des goûts assez éloignés. » Marie Bergström, sur ces témoignages, petit Oui, commentaire. Alors,
c'est effectivement, il y a, bon, vous l'avez dit en début d'émotion, il y a cette idée que les sites ont tué l'amour, la question de savoir est-ce qu'on peut trouver l'amour sur les sites. De fait, la réponse rapide, c'est oui, parce qu'aujourd'hui, on peut savoir à travers les grandes enquêtes nationales combien de couples qui se forment via ces services. Et donc, cette enquête en 2013, donc j'ai parlé, montrait qu'aujourd'hui, les sites de rencontres, c'est en 5e position dans le palmarès des rencontres. Donc, c'est pas le mode de rencontre le plus dominant, comme on le dit parfois, mais c'est quand même devenu une façon de se rencontrer relativement courante. Donc c'est à peu près un peu moins de 9% des couples qui se sont formés entre 2005 et 2013 qui se sont connus par ce biais.
Pascal Lardelier.
Oui, c'est vrai qu'on trouve toujours l'amour sur les sites ou les applis, mais on ne trouve pas forcément l'amour qu'on cherche. Et je crois que Cupid ont été espiègles, et heureusement qu'il reste cette part de hasard, de sérendipité, on l'évoquait à l'instant. Donc c'est vrai que les gens viennent avec des stratégies, avec des attentes, avec des aspirations qui vont être, le disait l'auditrice, d'en profiter un petit peu après un mariage ou une fin de mariage qui était frustrante, et puis elle va rencontrer quelqu'un, et puis d'autres veulent vraiment trouver le grand amour avec des majuscules, et puis à contrario, et ben ils vont cumuler les belles histoires, les aventures. Donc c'est vrai que voilà, c'est...
Oui, et puis ce qu'il faut dire, c'est que les usages et ce que les gens cherchent et ce qu'ils font sur ces services, ça dépend, et ça dépend notamment des âges. Parce qu'on a aussi, pense au premier témoignage, c'est après une séparation. Et effectivement, la Véronique disait qu'aujourd'hui, on ne fait plus de rencontres comme ça dans l'espace public. C'est pas une vérité générale. Mais en revanche, c'est vrai pour les personnes qui sont un peu plus âgées, comme je disais tout à l'heure, après 40 ans, 50 ans, on est dans une sociabilité qui est beaucoup plus organisée autour de sociabilité amicale, petit dîner, on rencontre les mêmes personnes, avec cette problématique aussi que la plupart des gens autour de soi sont en couple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les sites sont très importants pour les remises en couple. En revanche, les jeunes, ils ont plein d'opportunités de rencontre et effectivement, ils rencontrent souvent leur premier partenaire sexuel et leur premier conjoint ailleurs.
Et le caractère un petit peu cynique ou ironique, c'est que Internet fait beaucoup de couples, mais je le disais tout à l'heure, en défait aussi beaucoup, puisque ce sont des dispositifs assez addictifs, finalement. Et je crois que la vraie entrée en couple, c'est la désinscription rituelle et commune des deux personnes, vraiment. Et ça, je l'avais entendu à plusieurs reprises.
Merci, Mickaël, d'avoir témoigné ce matin. Et, Laura nous dit, les applis de rencontre n'ont pas tué l'amour, mais elles y participent. J'ai essayé plusieurs applis depuis un an à Paris. La plupart des hommes rencontrés sont inconsistants. Le principe est de zapper et de ne pas aller à la rencontre de l'autre. Elle nous parle d'une culture de la consommation et de l'individualisme qui tue l'amour. Alors c'est vrai, Marie Bergström, beaucoup critiquent ces sites et ces applis, car il s'agirait d'un capitalisme des émotions, pour parler comme la sociologue Eva Illouz, un capitalisme des émotions qui transformerait l'autre en marchandise jetable, sans compter que ces outils numériques auraient profondément, paraît-il, modifié la morale et les normes sociales. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces critiques ?
Alors moi je suis très critique justement contre cette thèse de la marchandisation.
Pourquoi ? C'est
parce que je pense qu'elle décrit mal en fait les pratiques observées. C'est-à-dire que je pense qu'elle témoigne surtout d'une forte désapprobation face à ces sites qui effectivement voient l'encontre des imaginaires amoureux, de mythes amoureux. Mais très concrètement, c'est une idée qui ne permet pas d'expliquer ni le succès de ces services, ni les usages qui en sont fait. Donc, on dit par exemple qu'aujourd'hui, la rencontre, c'est un marché sexuel autorégulé, il y a un rejet de l'engagement, il n'y a plus de logique sociale de la rencontre. En fait, ce qu'on constate de par les enquêtes, c'est que par exemple, les rencontres sur Internet sont ni plus ni moins homogames que d'autres rencontres. Donc ça n'a pas vraiment changé.
Rappelez ce que c'est l'homogamie.
Voilà, l'homogamie, c'est cette tendance à ce que les partenaires se ressemblent socialement. Ils ont soit un niveau de diplôme qui se ressemble, soit des métiers qui se ressemblent ou des parents qui font la même chose. Donc cette tendance, elle n'a pas bougé. On dit par exemple qu'il y a un rejet de l'engagement. En fait, la norme conjugale est très forte et elle s'exprime notamment sur Internet. Et on dit qu'il y a une rationalisation très forte. En fait, il n'y a pas de rationalité univoque. Les usages sont très différents et les usagers mettent en œuvre des rationalités très différentes. Donc, je suis contre cette, à la fois une thèse unique qui, je trouve, simplifie et généralise, mais aussi, je mets un peu le point sur le fait que ça exprime beaucoup des craintes face à un capitalisme vécu comme omniprésent, mais ça décrit mal les pratiques, in fine.
Il y a tout de même un aspect parfois consumériste. Si je prends le logo de l'appli Adopte un mec, où une femme met dans un caddie un homme.
Et ça, c'est une communication d'une entreprise qui a eu à gérer cette stigmate de la consommation. Et comment est-ce qu'on évacue un stigmate? Meilleure manière, le détourner. Donc ça, c'est quelque part, je ne dis pas que c'est un preuve finalement de consommation, il joue avec cette image-là et de façon assez habile.
Pascal Ardelier.
Oui, je crois qu'Eva Illouz, alors je vais pas être son avocat, mais je crois que d'abord elle prenait acte de la rationalisation qui est à l'œuvre effectivement sur ces sites via la technicisation de fait, hein, on remplit des fiches et puis après des algorithmes, etc. vont faire le travail. Et puis ce que j'avais aussi perçu dans les enquêtes que j'ai menées, c'est l'attirance-répulsion très très forte des utilisateurs des sites pour le dispositif. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où on est en espèce de toute puissance, on va faire des rencontres, donc on adore le dispositif, puis au bout d'un moment on est déçu, on a une gueule de bois sentimentale, et à ce moment-là on va rejeter le dispositif, on va dire que c'est nul, etc. Et les témoignages de fait mettent bien cette logique consumériste en exergue.
Marie Bergström, dans votre livre Les nouvelles lois de l'amour, vous montrez bien que l'une des grandes nouveautés, c'est le choix, ou moins l'apparence du choix. Choix immense quand on fait défiler des milliers de photos sur une appli. On appelle ça swiper, c'est ça? S-W-I-P-E-R, swiper. On ne sait plus où donner de la tête.
Alors, effectivement, je pense que quand on parle de ce qui est nouveau avec ces sites, en fait, on a tendance à se concentrer sur, on va dire, les caractéristiques les plus spectaculaires, etc. Donc, on a beaucoup parlé de la standardisation des profils, la mode de sélection, la masse des inscrits et tout ça. Mais moi, et ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est qu'on passe à côté d'une autre caractéristique qui est très importante, et c'est l'insularité de ces services. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces services sont dissociés de la sociabilité ordinaire. On fait des rencontres en dehors de son cercle d'amis et de sociabilité, et souvent à l'insu de ce cercle. Donc sur Internet, avec ces services, la rencontre devient une pratique individuelle, à part, une pratique privée. Et c'est ce que j'appelle la privatisation de la rencontre. Et pour moi, c'est vraiment le changement fondamental, aussi une rupture historique avec la manière d'organiser des rencontres, qu'on a trop peu souligné, qu'on a trop peu finalement étudié.
Et puis ça peut paraître banal, mais ces applis et ces sites ont renversé le scénario de la rencontre. En règle générale, c'est la rencontre physique qui passe avant la relation, et là c'est l'inverse.
Oui, donc ça c'est ce qui a introduit Internet. On commence à distance avec un profil, avec la communication écrite, et le corps va devenir donc non pas le support des premières impressions, mais plutôt une manière de vérifier comment la personne habite son identité sociale, c'est-à-dire comment cette personne incarne tout un tas de choses, d'informations qu'on connaît déjà. Donc il y a un peu une dissociation entre d'abord on va apprendre des informations objectives, et ensuite on va voir comment la personne habite ses caractéristiques.
Pascal Ardelier. C'est vrai que c'est une révolution copernicienne dans les modalités de rencontre. Qu'auparavant, l'idéal type, c'était fait de revoir apparaître le bel Hippolyte. C'était deux corps qui se rencontraient et l'idéal du coup de foudre. Et puis désormais, on apprend quand même un petit peu à se connaître de l'intérieur à travers ces sites. Et tous les films qui ont mis tout ça en scène, Vous avez un message, Heure, tous ces films montrent quoi? C'est que finalement, on apprend à connaître l'autre de l'intérieur à travers des mots, une personnalité qui se dévoile à travers ce qu'on va en écrire. Il y a des images, bien sûr, qui circulent, mais la rencontre, elle vient valider finalement un coup de foot qui est intellectuel et émotionnel sans les corps.
Alors apparemment, porter un chapeau sur ta photo de profil diminue tes chances d'être liké de 12%. Sourire augmente tes chances d'être liké de 14%. Bon après, tout dépend de ton sourire. Hein. Porter des lunettes diminue tes chances d'être liké de 15%. Ça se fait à peu près. C'est vrai que si t'es très très moche, plus les lunettes sont grandes, plus elles cachent ton visage. Hein, donc ça peut être aussi un plus. Si tu mets des photos de face, tu augmentes tes chances d'être liké de 20%. Alors ça peut paraître bête, mais je vous jure, sur Tinder, il y a des gens qui font des trucs vraiment très très stupides. Comme par exemple, les photos à plusieurs. On sait pas lequel t'es. Surtout que la meuf peut carrément préférer un tes potes. Les mêmes d'internet, frère, on n'est pas sur 9gag. Ou encore les photos prises de hyper loin. C'est simple, on ne te voit pas. Si le paysage prend 15 fois plus de place que toi sur la photo, c'est que pas la mettre. Ça donnera jamais envie de te rencontrer. Par contre, ça peut donner envie de visiter le Vaucluse. Ou encore ceux qui mettent des photos en couple. LOL, on se demande ce qu'elle fout sur Tinder en fait. Alors, mettre une photo de ta teub diminue tes chances d'être liké de 100%. Bon, ok, ce chiffre je l'ai inventé, mais je pense qu'il est vrai quand même. Parce que une fois j'avais essayé. Et enfin, être très très beau augmenterait tes chances de 100% de pas avoir besoin de Tinder. Ces gens-là, leur vie elle doit être trop facile.
Norman fait des vidéos. Alors Marie Bergström, pour compenser l'absence de la présence de l'autre, l'absence de sa voix, de son odeur, de sa posture, de ses mimiques, il faut bien mettre en scène un profil et des photos béton. Et les premières impressions se fondent sur le profil.
Oui,
et non sur le corps, évidemment.
Voilà, c'est ça. Donc, les premières impressions se font sur le profil. Donc, il y a on peut étudier sociologiquement ces photographies, notamment, qui prennent une place importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des usages sociaux, notamment, qui sont très diversifiés. Parfois, on dit que les applications avec uniquement la photo, ça, il y aurait moins de critères sociaux, c'est qu'il y a que le physique. C'est oublier non seulement que le physique est social, mais aussi que les pratiques photographiques sont très différentes. Donc une analyse que j'ai pu faire des systématiques de photographie publiées sur une application montre justement ces codes sociaux qui consistent justement, par exemple, chez les personnes plus favorisées socialement, d'avoir une forte valorisation de l'esthétique, donc l'esthétique artistique. Donc on met une importance sur la prise de la photo, la disposition. On met en scène aussi son mode de vie, des photos de vacances, des photos en jouant un instrument. Donc ça permet de faire valoriser des pratiques et des goûts culturels légitimes. Et c'est quelque chose qui tranche avec des photographies prises par des personnes de milieux plus modestes où on aura un esthétique plus fonctionnel. Donc ça veut dire que la photo n'a pas d'autre prétention que de se présenter, justement. On regarde la caméra, on fixe l'objectif, on sourit, on fait des selfies. Et en fait, c'est une pratique photographique fortement rejetée dans d'autres milieux sociaux. Et comme ça, on a un appareillement homogame, notamment à travers les images.
Et oui, on se juge socialement à travers ces photos et ces profils. Et c'est parfois très sévère.
C'est très sévère. Alors, les jugements sur la photo peuvent être très sévères. Certaines photographies vont être jugées vulgaires, ridicules et tout ça. Donc derrière ça, c'est des critères sociaux. Un autre élément où il y a des critères sociaux extrêmement forts, c'est l'orthographe.
C'est l'écrit.
Donc là, on a, et on le constate de façon très nette, les personnes diplômées de supérieur, finalement, peu importe le niveau d'études ou le type d'études, mais ces personnes diplômées de supérieur, ils vont avoir un rejet quasi systématique envers les personnes qui ne maîtrisent pas l'orthographe française. C'est un critère social très fort parce qu'il y a une inégalité face à l'écrit en France. Et donc, ça veut dire que ça va être une exclusion sociale relativement nette envers le bas de l'échelle sociale.
Et l'humour dans tout ça ?
L'humour aussi, moi je l'ai mis en avant comme facteur d'homogamie. Pourquoi ? Parce que l'humour, ça repose sur un univers référentiel. En gros, c'est comme un puzzle ou comme un décode. Il faut vraiment maîtriser la logique derrière pour comprendre la blague. Et pourquoi ça participe à l'homogamie ? Parce que si on a compris la blague, si on partage ces références-là, on crée de l'affinité. En revanche, si les blagues qui tombent pas à plat, bon, ça jette un froid. Et en fait, ça casse justement l'ambiance. Donc, il y a des formes d'affinité culturelle qui s'expriment à travers la photo, l'écrit et l'humour.
Pascal Lardelier.
Oui, dès 2003, dans le Cœur Net, j'avais analysé les textes des profils en ligne et je voyais combien, même caché derrière un pseudo et un écran, notre position sociale s'exprimait vraiment à travers ça. Les références culturelles mobilisées, l'orthographe, les pseudos. Hein, et c'est vrai que tout ça, impitoyablement, ça positionne les gens sur l'échelle sociale et ça fait qu'on va contacter quelqu'un ou pas sur ces bases-là.
Marie Bergstrom, est-ce qu'on prend contact avec des personnes issues de tous les milieux sociaux ou est-ce qu'on reste plutôt en contact avec ceux qui nous ressemblent ?
Alors, on peut dire deux choses par rapport à ça. Il y a déjà une probabilité forte de contacter des personnes dont les profils correspondent à quelqu'un qui nous ressemble socialement. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que en fait, il n'y a pas une exclusion sociale totale sur le profil. Il y a plein de personnes qui entrent en contact avec des gens qui sont relativement différents. Mais là, on va avoir un autre critère qui entre en compte, c'est justement la communication. Et pouvoir tenir une conversation par chat, il faut bien avoir des choses à se dire. Et ça, c'est de nouveau favorisé par le fait de partager des références commune, d'avoir vu le même fil, fréquenter les mêmes lieux, etc. Donc c'est pas uniquement un choix sur profil, on le dit parfois trop souvent, c'est aussi on va dire en sélection homogame dans la durée, aussi dans l'écrit, dans la communication. Donc finalement, c'est un processus tout au long de l'usage des services.
Allez, Thibaut de Saint-Maurice, que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, on se demande justement, en philosophe, comment réussir ces rencontres, parce que donc vous l'aurez compris, je ne suis pas le meilleur des coachs en séduction, mais on va essayer de questionner la réussite de la rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est réussie ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a bien eu lieu ? Parce que tout le problème, c'est qu'on peut passer du temps à croiser des gens sans les rencontrer vraiment. Par exemple, dans le couloir, là, devant le studio, dans la rue, à la boulangerie, à la sortie de l'école ou en allant chercher les enfants, ou alors par hasard dans le bus, on peut se croiser, on peut s'entrevoir, on peut même se parler un peu, se dire bonjour, se faire un signe de tête, sans s'être rencontré. Vous savez, sans s'être rencontré, comme on dit que l'on a fait une rencontre ou que l'on a rencontré quelqu'un.
Alors une rencontre réussie, c'est donc une rencontre qui nous change ?
Oui, exactement. La rencontre authentique, c'est pas qu'une simple relation ou qu'un simple échange d'informations. La rencontre réussie, elle m'engage tout entier auprès de l'autre. Le philosophe Emmanuel Lévinas en fait une belle analyse lorsqu'il écrit dans son livre « Entre nous » que, je cite, « la rencontre d'autrui est d'emblée ma responsabilité pour lui ». Le signe donc d'une vraie rencontre, c'est que l'on ne peut pas rester indifférent à cette personne que l'on a rencontrée. Elle nous touche, elle nous intéresse, elle est désormais distincte de toutes les autres personnes. Et par ce fait, elle entre dans notre vie et on en devient responsable parce que une fois rencontrée, ce qui lui arrive et ce qu'elle est nous importe. On se sent obligé d'en répondre. Et c'est ce qu'il y a de fascinant et parfois de déstabilisant dans la rencontre amoureuse. C'est qu'on ne peut plus faire après comme si de rien n'était. La réussite de la rencontre, c'est donc, en un sens, la rencontre elle-même. Parce qu'elle nous fait découvrir ce que Lévinas appelle la non-indifférence. La rencontre authentique, elle procure ainsi une expérience morale aux deux parties. L'une s'ouvre à l'autre et l'autre l'accueille avec souci et attention. Donc la réussite de la rencontre, c'est pas seulement et pas surtout de coucher ensemble, parce qu'on peut tout à fait coucher ensemble sans se voir, les yeux fermés, aveuglés par le désir et tout occupé à essayer de saisir l'insaisissable corps de l'autre. La réussite de la rencontre, c'est le face-à-face, le visage contre visage. Parce que nous portons sur notre visage notre caractère unique, les traits du visage, son expressivité, sa mobilité, la manière dont il va incarner les émotions, c'est le visage tout à fait singulier d'autrui qui nous engage et qui convoque notre responsabilité. Alors on en parle un instant, c'est tout le problème des photos de profil, hein. Elles ne sont que des reflets fixes, travaillés et construits de notre visage. Et c'est pour ça que la rencontre ne peut, à mon sens, réellement commencer que face à face, en s'envisageant réciproquement.
Commentaire Pascal Lardelier, Marie Bergström.
Oui, le juge de paix de tous ces processus, c'est finalement la rencontre du corps de l'autre. Hein. Et c'est vrai que c'est la première rencontre. Et ça, c'est quelles que soient les images, les textes, les fantasmes qu'on a pu produire en ligne, in fine, c'est le désir qui apparaît, qui vient ou pas,
allez,
lors de la première rencontre.
Dans quelques instants, on va s'intéresser à la rencontre réelle, hein, une fois qu'on a chatté et qu'on a beaucoup parlé sur une appli ou un site de rencontre. Allez, dites-nous si on peut vraiment trouver l'amour sur un site ou une appli de rencontre. On reçoit une avalanche de messages. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Les gens, quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils s'alléger de tous leurs tourments? Veulent-ils se laver de toutes leurs fautes? Veulent-ils retrouver la légèreté? Ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire, faire, faire.
Et non, c'est pas Bachung, Pascal Lardelier, c'est Miossec qui interprétait les gens.
J'ai rencontré quelqu'un.
T'as rencontré quelqu'un? Et tu l'as rencontré où?
Sur Internet.
Grand bien vous fasse.
C'est fou.
C'est effectivement assez inattendu à mon âge.
T'avais raison, hein. C'est formidable, Internet.
Sur France Inter.
10h47, peut-on vraiment trouver l'amour sur les applis et les sites de rencontres? Standard ouvert au 01 45 24 7000. Bonjour Fabienne Kramer.
Bonjour.
Vous êtes médecin de formation, psychanalyste, et vous avez, vous, trouvé l'amour via un site de rencontre.
Oui, il y a longtemps, peut-être que ça a évolué depuis, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai rencontré mon mari actuel, oui, sur un site.
Et pourquoi vous êtes tournée vers un site Féline Kramer?
Alors moi, au départ, quand je me suis tournée vers les sites à cette époque-là, c'était parce que j'étais pas quelqu'un qui avait une vie sociale particulière. J'avais des enfants à la maison, je sortais pas énormément. Et ensuite, je me disais que j'allais rencontrer des gens différents. Et peut-être que les sites de rencontre n'ont pas, vous en parliez tout à l'heure avec l'homogamie, elles n'ont pas ouvert le champ des possibles comme on aurait pu le souhaiter ou l'espérer, parce qu'après tout, c'était une superman pour rencontrer des gens très différents. Alors moi, j'ai rencontré quelqu'un que j'aurais, je pense, pas rencontré par un site, autrement que par un site de rencontre, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Parce que moi, mon conjoint n'était pas français.
Comment aviez-vous mis en scène votre profil, Fabienne Kramer? Et est-ce que le maniement du verbe a été important pour vous dans la séduction avec votre futur compagnon?
Oui, on s'est rencontrés sur un site qui, soi-disant, met en avant, je dirais, les goûts des uns et des autres, et en particulier des goûts artistiques ou des goûts intellectuels. Et en tout cas, puisque c'est mon conjoint qui m'a contacté à travers ce site, lui, il a été attiré, j'espère, par mon profil physique. Il y avait des photos et qu'elles devaient être pas trop mal, mais aussi par le fait que j'avais noté une artiste et un écrivain, c'était Sophie Kell et Roland Barthes, et dont il est spécialiste. Donc finalement, il s'est dit voilà qu'il y avait plusieurs critères qui devait nous faire nous rencontrer.
Marie Bergstrom, qui prend beaucoup de notes, qui a publié Les Nouvelles Lois de l'Amour.
Oui, je trouve que votre témoignage est très intéressant parce que ce que vous dites très bien, c'est que sur Internet, on peut rencontrer des personnes qui sont en dehors de ces cercles. Mais de fait, on ne rencontre pas forcément des personnes qui sont en dehors de ces milieux sociaux. C'est quelque chose de différent. Effectivement, vous n'aurez peut-être pas pu rencontrer votre mari par d'autres moyens parce qu'il habitait un autre pays. Mais finalement, de par ses préférences et ses goûts culturels communs, il y a une variable cachée derrière qui est une forme d'affinité sociale. Donc l'homogamie s'exprime quand même, non pas parce qu'on rencontre que des gens de son milieu, on va au-delà de ces cercles, mais on rencontre des personnes qui sont quand même de même classe sociale, souvent.
Pascal Arduy, je rappelle que vous avez publié Les Réseaux du Cœur.
Oui, et Le Cœur Net en 2003, bien avant. Oui, c'est vrai qu'Internet a ouvert une nouvelle internationale du célibat. Donc, la proximité géographique peut être un critère tout à fait valide dans les critères de sélection. Mais c'est vrai qu'on rencontre parfois des gens qui vivent très très loin, mais qui avaient, à niveau socio-culturel égal, effectivement, vont produire beaucoup plus d'affinités dans la production du couple que des gens qui seraient nos voisins.
Est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dur sur les critères? Tiens, il ne correspond pas finalement à mes critères, je vais les zapper. Ou je vais la zapper. Qu'est-ce que vous avez constaté, Marie Bergstrom?
Non, on peut pas dire ça. On peut pas avoir de généralisation, de forme de hyper-sélectivité qu'il y aurait sur Internet.
C'est une idée reçue, hein.
Oui, c'est une idée reçue parce que déjà, encore une fois, moi, je souligne souvent des usages vraiment diversifiés de ces applications et des rationalités aussi très différentes. On regarde comment les gens s'approprient de ces outils. Certaines personnes vont faire preuve de beaucoup de calculs, stratégies, regarder, évaluer, etc. D'autres personnes se reposent sur une forme d'intuition qui est relativement commun et semblable à ce qu'on peut trouver dans des rencontres ordinaires. Alors cette intuition et cette forme plus feutrée d'évaluer les personnes, c'est pas forcément moins social, mais ça s'exprime différemment. Donc on a des modes de jugement qui sont différents et encore une fois, les rencontres sur Internet, les couples formés via ces biais, encore une fois, ils sont ni plus ni moins homogames, donc le social s'exprime autrement, mais ils trouvent d'autres chemins.
Allez, écoutons un extrait de la série Master of None où deux personnages se rencontrent en vrai après avoir dialogué sur une appli.
Je suis partie de Los Angeles pour aller vivre à New York et maintenant, ça fait 2 ans que je bosse en tant qu'avocate pour les nouvelles technologies.
Cool!
Qu'est-ce que tu fais?
Alors, j'anime une émission de compétition de cupcake qui s'appelle Duel de Cupcake.
Cool!
J'ai plus rien à dire en fait, alors je crois que je vais peut-être m'en aller.
D'accord, c'était vraiment très sympa ces 5 minutes. Du coup, je vais boire ces verres alors.
D'accord, salut!
Salut!
Et un nouvel extrait de Master of None, la série de Netflix. Alors une fois que le feeling passe sur une appli, il faut bien passer au réel. Marie Bergstrom, ça accroche ou pas? Comme dans cet extrait où ça accroche pas et il y a un moment de gêne.
Voilà, c'est ça. Effectivement, il peut avoir des affinités qui s'expriment sur Internet, mais contrairement parfois à une idée reçue, on n'est pas face à des relations épistolaires avec ces services. On passe rapidement à la rencontre physique. Pourquoi? Et ça a été dit. La rencontre, c'est vraiment le moment où on peut savoir véritablement à qui on a affaire. Alors, donc, le corps est très important. Il n'a pas disparu, en fait, de la rencontre sur Internet. C'est juste qu'il a été déplacé, il recule dans le processus de rencontre. Mais il a un rôle très important. La rencontre physique a un rôle très important. À la fois pour, évidemment, voir l'autre. Donc, il y a un jugement esthétique, c'est évident. Mais le corps, c'est un support de bien d'autres choses. À partir du corps, on a des informations, justement, sur bon, l'appartenance sociale, certes, mais aussi, on prête des profils psychologiques, on a une intuition par rapport à la personne et comment elle est. Et donc, c'est vraiment crucial pour savoir si la relation va pouvoir devenir physique, notamment.
On est forcément toujours déçu.
On n'est pas forcément déçu. Il non. peut avoir. Et en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on parle avec des utilisateurs.
On ment beaucoup sur les applis et les sites. On ment sur son âge. Puis les photos ne montrent pas la réalité du corps, des postures, des mimiques.
Oui, et en même temps, les utilisateurs ne sont pas dupes. Ils savent bien aussi qu'il y a des modes de valorisation et de mise en scène de soi sur Internet qui sont. Il y a des choses qui ne sont pas forcément fidèles à la réalité. Et c'est bien pour ça qu'on a envie de voir la personne en face pour un moment un peu de calibrage des premières impressions.
Pascal Lardelier.
Les gens valorisent tellement leur profit, texte et image, que j'appelais ça le lifting identitaire il y a quelques années pour montrer comment c'était un espèce de double idéal de soi qu'on mettait en ligne. Et puis regardez la contre-offensive des sites mainstream dont le M, dont on parlait tout à l'heure, qui organise désormais des événements dans la vraie vie avec des groupes de gens paritaires qui vont se rencontrer selon les feelings ou pas.
Fabienne Kramer, comment ça s'est passé la rencontre dans la vraie vie avec votre compagnon qui aimait Sophie Calle et Roland Barthes?
Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé puisque on est toujours ensemble. Mais tout à l'heure vous parliez de la notion de déception. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'elle est systématique et inhérente au surgissement de la réalité dans une rencontre. C'est-à-dire que le fantasme est toujours bien supérieur à la réalité. Et donc, il y a toujours un moment. Et ben, je pourrais dire aussi que certainement que nous, on a eu un moment d'une forme de déception parce que la réalité ne collait pas au fantasme, ce qui est obligatoire. Mais pour autant, comme on savait, et c'est là peut-être l'intérêt des rencontres qui sont d'abord épistolaires, comme on savait qu'on avait une forte connivence intellectuelle et de point de vue, on a peut-être pris le temps d'aller au-delà de ça.
Marie Bertrand, il y a un phénomène, vous l'évoquez assez brièvement dans votre ouvrage, mais quand même qui existe, quand on fuit après la rencontre réelle ou quand on ne donne plus de nouvelles, ça s'appelle, je crois, le ghosting. C'est assez terrible et ça peut créer des dégâts psychologiques chez celui ou celle qui en est victime. Racontez-nous ce que c'est exactement ce ghosting.
Alors déjà au moment de la rencontre, ce qui est intéressant avec cette première rencontre, c'est que il y a un moment où on va trancher sur l'être de la relation. C'est assez inhabituel parce que normalement ce sont des situations qu'on trouve avant on trouvait dans les couples qui avaient duré quelques années, on avait un mouvement, on se pose la question mais qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre, est-ce qu'on va continuer. Maintenant cet arbitrage sur le devenir de la relation, en fait elle intervient au premier rendez-vous. Il faut savoir tout de suite est-ce qu'on va se revoir ou pas. Alors le ghosting c'est un terme médiatique, il n'est pas forcément utilisé par les usagers ni par les sociologues, mais on peut dire qu'il y a des nouveaux codes aussi de la rencontre et qui ne sont pas forcément partagés. Est-ce que en fait on est obligé de donner de nouvelles ou pas après un premier rendez-vous, de quelle manière on est ou pas engagé par cette rencontre qu'on en a discuté tout à l'heure, et il y a des codes différents là-dessus et il y a aussi des déceptions par rapport à ça parce qu'on ne s'entendait pas à la même chose forcément.
Le rejet peut être assez violent tout de même.
Le rejet peut être violent et effectivement aussi un désir non réalisé, parce que une rencontre c'est entre deux personnes, donc il peut avoir un décalage des désirs de où qu'est-ce qu'on va faire avec cette rencontre, où est-ce que ça va mener.
Parce qu'on voit monter, c'est vrai, quand on écoute les témoignages, toute une vague de nouvelles incivilités numériques, hein, et le fait de jamais rappeler la personne, quoi qu'il se soit passé au demeurant, ça valide cette goujaterie en ligne en fait. Hein.
En tout cas, nos auditeurs nous disent massivement, hein, si l'on se fie au message sur notre page Facebook ou par courriel, qu'on peut, oui, trouver la sur Internet, Marie Bertrand.
Oui, alors donc effectivement, il y a des couples qui se forment de cette manière et donc l'idée que l'Internet a tué l'amour, c'est une crainte, mais elle ne s'est pas réalisée.
Je recommande Marie Bertrand votre excellent livre « Les nouvelles lois de l'amour », c'est publié aux éditions La Découverte. Merci Pascal Lardelier. On peut lire avec profit « Les réseaux du cœur ». Je vous rappelle que l'opération « Une jonquille pour Curie » Fabienne Kramer. Je vous rappelle que l'opération « Une jonquille pour Curie » se poursuit. Vous pouvez soutenir la recherche contre le cancer en faisant un don par SMS en envoyant espoir au 92002. Ce dimanche à 10h, vous pourrez participer à la course de la jonquille pour Curie. Ça se passe au Champ de Mars à Paris. Vous pouvez vous inscrire sur unejonquillepourcurie.fr. Demain, je vous attends nombreux au Salon du Livre, Porte de Versailles, dès 9h45. La bande de Grand Bien Vous Fasse vous délivrera une sélection de livres qui font du bien. Nous essaierons notamment de comprendre le succès mondial dans le livre de développement personnel, Les 4 accords Toltec. Est-ce de la bouillie avariée pour chat ou une méthode simple et efficace pour aller mieux? Vous saurez tout demain. On vous attend nombreux au Salon du Livre. Toutes les infos sur franceinter.fr. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Clément Berman.